Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une alliance, pas un ralliement. Pour François Bayrou, les mots ont un sens. Sa décision de ne pas se présenter à la présidentielle pour mieux soutenir Emmanuel Macron aura eu le mérite d'éclaircir un paysage politique encore très confus à exactement 2 mois du premier tour de la présidentielle. Confus malgré le passage au tamis des candidatures pour ceux qui ont joué le jeu des primaires. Dans son éditorial d'hier dans Le Monde, Gérard Courtois notait que rien pour l'heure ne se décante vraiment dans cette campagne à nul autre pareil, ni en termes de présidentiable, tous se maintiendront-ils, tous auront-ils leur parrainage, ni en termes de programme, non pas que les candidats n'en aient pas, mais les marqueurs idéologiques qui font qu'une candidature ne ressemble à aucune autre semblent avoir du mal à émerger. Peut-être parce que les mots qui sont utilisés dans cette campagne ne permettent plus de distinguer ceux qui les utilisent à force de faire la navette d'un point à un autre. Ainsi, le peuple, la laïcité, la révolution, le travail qu'on retrouve aussi bien à gauche qu'à droite ou inversement. Alors, ces allers-retours du vocabulaire finissent-ils par en amenuiser la portée ou au contraire à lui redonner de la vitalité? Les mots changent-ils de sens en période électorale? C'est la question que nous avons posée ce soir. À Cécile Alduy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de littérature à l'université Stanford, c'était aux États-Unis. Vous êtes chercheuse associée au CIVIPOF à Sciences Po et vous venez de publier aux éditions du Seuil « Ce qu'ils disent vraiment, les politiques pris au mot ». C'est une analyse d'un corpus de discours et de textes politiques. 2,5 millions de mots, voilà, ça c'est le chiffre un peu frappant que vous avez analysé. Pour discuter avec vous, Bruno Filigny, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, spécialiste de l'histoire politique de la France. Vous avez été secrétaire des débats à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire, secrétaire des débats?
Non, ce sont les gens qui rédigent les comptes rendus des séances.
Et vous venez de publier aux éditions Talendier, Histoire amusée, des promesses électorales. Ça remonte à la Troisième République.
C'est même avant. Depuis 1848.
Ah oui, depuis 1848. Voilà. De 1848 à nos jours, on verra qu'il y a évidemment et des différences, mais aussi de grandes constantes peut-être dans les promesses qui peuvent être formulées. Et puis notre troisième invitée, Mariette Darrigrand, bonsoir.
Bonsoir.
Sémiologue, vous avez fondé le cabinet d'études des faits et des gestes. Vous êtes chroniqueuse sur France Inter. Quand est-ce qu'on vous retrouve? Alors, chez nos amis de France Inter?
Oui, dans l'émission de Claire Servageant le vendredi, donc en général, c'est de 18h20 à 19h. Voilà, autour de 18h45.
Donc on peut vous podcaster parce que de 18h20 à 19h, le vendredi, il y a bien sûr du grain à moudre. Et puis vous venez de publier chez Gallimard, « Je te kiffe, je t'aime », 69 histoires de mots d'amour, ce qui aurait pu vous valoir une invitation dans notre émission d'hier. Et tiens, pour commencer, ça m'a fait penser à quelque chose. Pour revenir à l'émission de ce soir, Mariette Darrigrand, les mots d'amour, est-ce que ce sont des mots qui peuvent être utilisés en politique? « Je t'aime », par exemple, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup.
Ah bon, vous n'avez pas entendu Emmanuel Macron l'autre jour? Je vous ai compris, je vous aime. si, je vous aime, c'est devenu un mot politique. Voilà un phénomène récent.
Alors, ces mots qui peuvent être utilisés, ils sont effectivement, évidemment, nombreux. On ne va pas tous les observer ce soir, mais je vous propose peut-être de commencer par le mot qui englobe tous les autres, c'est celui de discours. Le discours, pour faire des discours, il faut utiliser des mots. Il y a des discours qui sont marquants. Quand on remonte aux deux dernières présidentielles, on se souvient évidemment, on y fait référence très souvent, du discours du Bourget. C'était en janvier 2012 avec François Hollande. Nicolas Sarkozy à Versailles, là aussi, on était en janvier 2017. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, enfin qui est la mienne pour l'instant, que on attend toujours le ou les grands discours de cette présidentielle 2017, Cécile Alduy?
Alors, peut-être que de façon intuitive, je dirais, il y a eu un discours marquant, peut-être pas pour les bonnes raisons, c'est celui du 10 décembre de Emmanuel Macron. C'est la fois où il s'est cassé la voix à la fin de son meeting. Et donc, c'est pas tellement sur le fond et sur les mots qui ont été employés, mais sur la performance théâtrale de ce discours qu'il a été marquant. Ce qui est assez typique de cette candidature, d'ailleurs, Emmanuel Macron, il est dans le théâtre, dans la présence physique, charismatique, pendant ses meetings. Et le discours lui-même, si on le lit lorsqu'il est en version texte, est beaucoup moins marquant que la performance.
Mais alors c'est assez terrible justement, parce que c'est le seul finalement, moi aussi j'avais noté le discours d'Emmanuel Macron, mais dont on ne retient pas effectivement des mots en particulier, mais plutôt ce moment où sa voix paraît dans les aigus, parce que bon, il avait peut-être pas encore la maîtrise de ses grands meetings, et à la fin, voilà, il s'est un petit peu échauffé. fait. Est-ce que le fait qu'on ne retienne que ça, finalement, de ce premier grand moment, et qui sera aussi peut-être celui dont, qu'on retiendra pour l'histoire si jamais Emmanuel Macron est élu, est-ce que ça dénote pour vous trois une forme peut-être d'affadissement aussi du discours politique? C'est-à-dire, on retient la forme, mais on ne retient rien, mais alors rien du tout du fond. Bruno Fulini.
Ça se relie aussi à une évolution du rapport au temps. Pour faire un discours marquant, pour le prononcer, je veux dire, il faut du temps. Et aujourd'hui, lorsque vous avez une information sur un candidat, quel qu'il soit, on va retenir la petite phrase, les quelques mots un petit peu percutants. Si on remonte dans le temps, un homme politique, ça doit être d'abord un orateur, éventuellement un tribun, à une époque où ce terme n'a pas la connotation péjorative qu'il a aujourd'hui. Et on aimait Jaurès parce qu'il était capable de parler 4 heures sans notes et sans faire de faute de français. Qui aujourd'hui écouterait pendant 4 heures un responsable politique discourir même en beau français?
Jean-Luc Mélenchon, il a fait mieux hein, sur sa chaîne YouTube, il a fait une émission de 5h30. Hein. Oui, alors, je ne sais pas si tout le monde l'a suivi du début à la fin, mais enfin bon.
Parce qu'il est dans cet héritage-là, mais c'est relativement minoritaire aujourd'hui. Et en tout cas, ça n'est pas ce que les médias ont envie de répercuter. Le mot tribun aujourd'hui est très souvent pris en mauvaise part, et même le mot discours. Moi, je trouve qu'on assiste à une victoire du slogan par rapport au discours, justement.
Il y a une responsabilité médiatique, Mariette Daréran.
Oui, mais alors pour revenir sur Emmanuel Macron, il n'y a peut-être pas un mot en particulier, mais je crois qu'il y a un registre et qu'il émerge précisément parce qu'il est à rebours du registre général. Qu'est-ce qu'on a depuis quelques années hein, on a un registre des passions tristes, le mot colère, alors vraiment il est très structurant, tout le monde l'emploie, c'est la pulsion négative, c'est ce que les Grecs appelaient le thumos, c'est-à-dire que un élan négatif, qui peut être intéressant, mais qui est le ressentiment, la vengeance, Marine Le Pen est sur cela, elle a un peu évolué, mais elle est là-dessus, elle a structuré le débat. Arrive Emmanuel Macron qui fait l'inverse. L'inverse de la colère, c'est l'enthousiasme, c'est l'éros classique, si vous voulez, c'est-à-dire la pulsion vitale. Hop, les gens adhèrent. Enfin, une partie des gens adhèrent. C'est ça le phénomène. Alors, c'est pas sur un mot ou deux, encore que progressisme est sorti du placard, c'est pas rien. Mais ensuite, si vous voulez, c'est moins des concepts, hein, mais qu'un vocabulaire heureux quand il dit « il veut le bonheur de la France ». Qui aurait pu parler de bonheur il y a encore quelques années? Il dit « et si c'était possible ?» Donc je crois quand même qu'il ne faut pas voir tout de suite Macron simplement. Je suis d'accord, c'est un acteur, je crois même que c'est le CID. Mais n'empêche qu'il y a du contenu, et ce contenu, il passe par des passions positives que la France redécouvre.
Je crois que c'est vous qui, dans une interview aux Cécile Alduy, disiez que Macron, c'est un des mots de la campagne. C'est pas seulement un des acteurs de la campagne, c'est aussi un des mots qui est le plus utilisé aujourd'hui, quels que soient les candidats.
Oui, c'est devenu un mot de la campagne. Je pense qu'il y a des études qui sont en train d'être faites sur la prédominance de Macron dans les éditoriaux et dans les actualités à la télévision. Juste pour revenir sur le temps médiatique, j'ai fait une toute petite étude un peu empirique. Le fameux discours de François Hollande à la suite des attentats du 13 novembre, où il déclare que la France est en guerre. J'ai regardé dans toute la presse. C'est un discours de 45 minutes. Il y a 4% de ce discours qui a été repris par la presse. Et la presse, ils ont le temps, hein, ils ont de l'espace, etc. À la télévision, dans les années 80, on pouvait encore citer 43 secondes d'un discours de candidat. Maintenant, la moyenne, c'est 13 secondes. 13 secondes, je sais pas qu'est-ce qu'on retient d'un discours. Un discours, justement, normalement, c'est au-delà de au moins 500 mots pour que ça fasse discours. Sinon, c'est une phrase, ce qui n'est pas la même chose. Donc, je suis totalement d'accord. On est passé vraiment, ce qu'on appelle aux États-Unis les soundbites. Donc, le slogan plus que le discours qui la cohérence et l'articulation logique de la pensée. Et pour revenir à Macron, il a tout un vocabulaire justement positif pour revenir à ce que vous dites. Il parle de cette société bienfaisante. Avant lui, cependant, Alain Juppé avait parlé d'identité heureuse et ça n'avait pas marché dans son propre camp. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant aussi à creuser.
Juste là-dessus, il y a la question du corps.
Oui.
Quand on est un jeune homme de 38 ans qui en plus sourit sans arrêt et porte quelque chose de positif, c'est pas la même chose qu'un monsieur de 70 ans qui fait un peu la gueule, quoi.
Bon, alors il y a une responsabilité des médias qui réduisent de plus en plus, d'après ce que vous dites, le temps de retranscription des discours. Alors, j'avais une autre hypothèse qui peut être complémentaire à vous soumettre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être peut-être la peur aujourd'hui chez les politiques de voir certaines parties de leur discours se retourner contre eux. Je pense par exemple, alors Benoît Hamon qui parle du revenu universel, c'est peut-être ce qui lui permet de gagner la primaire, mais finalement, on a l'impression qu'on ne retient plus que ça de son programme, c'est-à-dire ça se limite à sa proposition de revenu universel. François Fillon, avant le Penelope Gate, on parlait surtout de quoi ? De ses propositions par rapport à la sécurité sociale, et on avait l'impression qu'il n'y avait que ça également. Prononcer des phrases ou des éléments de discours qui peuvent être un peu forts, c'est à double tranchant, non, Bruno Fuligny ?
Oui, alors d'abord, moi je n'ai pas voulu mettre en cause les médias. Je pense que la question est beaucoup plus vaste, parce que les médias essayent aussi de satisfaire un public. Et je crois que de façon générale, la société est moins réceptive ou attentive à des exposés très longs. Peut-être parce que nous sommes tous un peu pressés, un peu bouqués, parce que nous avons le cerveau un petit peu en kaléidoscope, parce que nous avons appris à travailler autrement. Et donc, il y a des facteurs multiples qui font que nous sommes tous, collectivement, médias mais électeurs, citoyens, réceptifs à des discours très longs et très structurés. Et là, je vous assure que sur un siècle et demi de comparaison, le contraste est frappant. Oui, quelques mots ou quelques expressions vont faire mouche, parce que justement, ils vont remplir ces 13 secondes dont vous parliez, et tout le monde va être content, l'émetteur comme le récepteur. En même temps, est-ce que ça n'a pas toujours existé ? Au fond, qu'est-ce que nous retenons de la campagne de 80, ou qu'est-ce que nous retenons de l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848? Quelques mots, quelques mesures, quelques promesses, c'est tout. Dans le flux ou le flot ou la masse considérable de documents électoraux qui ont été élaborés, il y a un moment, quelque chose qui fait mouche. Quelque chose qui fait mouche et qu'on va retenir. Alors ça peut être des phrases pleines de sens, ça peut être des phrases très ambiguës. Si vous prenez la France pour tous, on ne peut pas dire que ça n'ait aucun sens. Mais en fait, ça a tellement de sens que finalement le sens devient difficile à déterminer, à encadrer. Parce que en fait c'est une expression qui est polysémique et où l'électeur peut projeter toutes sortes de choses. C'est là où un bon candidat va trouver la formule qui fait mouche, qu'on retient et qui va satisfaire un public très large.
Et sur le fait que certains mots ou que certaines phrases puissent se retourner contre celui qui les prononce parce qu'elles finissent par vous échapper et peut-être aussi à vous identifier de manière quasi exclusive, Cécile Alduy.
Oui, on a l'impression que les discours sont de plus en plus lissés pour équilibrer les choses, pour qu'il n'y ait pas de côté très saillant qui puisse offrir prise à la critique. Et quand on vraiment prend la peine de lire, soit d'écouter les discours, on voit bien dans la construction de ces discours, il faut passer par toutes les étapes. Donc on va parler de tous les sujets obligés, un petit peu d'environnement, un petit peu de culture, un petit peu d'économie, etc. Avec un vocabulaire de plus en plus abstrait et standardisé. Donc moi, pour mon bouquin, j'ai étudié Marine Le Pen, François Fillon, François Hollande, Alain Juppé, Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon. Et finalement, il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui emploie un vocabulaire différent des autres d'un point de vue purement de richesse lexicale. Il emploie des adjectifs différents des autres. Les autres utilisent le même vocabulaire. Ce qui fait justement cette impression d'uniformisation, qu'il n'y a rien qui saute aux yeux, parce que quel que soit le contenu profond de leurs propositions, ils couchent ces propositions dans la même langue.
Et on voit bien d'ailleurs le risque qui peut être pris lorsqu'on sort un petit peu justement des clous aujourd'hui. On revient à nouveau à Emmanuel Macron, mais ses propos sur la colonisation, crime contre l'humanité, ses propos sur l'humiliation subie par la manif pour tous, ça c'est quelque chose qui risque de rester parce qu'on ne lui... Quoi, on lui pardonne pas d'avoir cherché peut-être à sortir un peu des sentiers battus, Marielle Darrigrand ?
C'est difficile de savoir les effets. Là, il cherche à créer un effet. Donc on va voir de quel côté l'effet est-il positif ou négatif. On a bien vu, il est peut-être en train, peut-être c'est une maladresse, l'histoire de crime contre l'humanité, c'est le point Godwin, bon ça, mais peut-être que c'est intéressant pour lui parce qu'il a tout de suite derrière, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit le samedi suivant à Toulon, il a dit au fond qu'il allait faire ce que Jacques Chirac a fait à propos du Veldiv, il va s'il est président, demander pardon. Je dis d'ailleurs au passage que c'est un concept politique élaboré par ce fameux Paul Ricoeur, le philosophe. Ça n'est pas simplement du folklore. Enfin, j'ai l'air de défendre Macron, mais quand on écoute vraiment bien, ça m'a beaucoup frappé cette histoire. C'était à la fois faire du chiracisme, si vous voulez, dire comme Jacques Chirac, je demanderai pardon, mais c'était aussi aller dans un sens philosophique. Donc il y a quand même, je crois, dans cette élection, on est un peu sévère là, il y a un retour des concepts. Je crois quand même qu'il y a une tentative de faire revenir les concepts. Alors certes, le concept majeur, libéralisme, n'est pas donné, ça c'est le gros mot, il ne faut pas le dire, ou l'autre gros mot, nationalisme, on ne le dit pas. Mais ce qui tourne autour, patriotisme économique de Marine Le Pen, hein, ou progressisme, disons, éclairé de Macron, bah, c'est quand même des concepts.
Peut-être rester juste un instant sur la notion de pardon et les autres mots aussi auxquels ça renvoie. Le pardon, c'est quelque chose aussi qu'on accorde, qui est extrêmement présent, par exemple, dans la culture catholique. On a l'impression aujourd'hui que ce vocabulaire-là, vocabulaire religieux, les attitudes aussi qui peuvent renvoyer à la pratique religieuse sont de plus en plus présents chez les candidats. On voit bien par exemple François Fillon confronté au Penelope Gate qui vient s'excuser et puis qui aussi promet des efforts. Faisons des efforts sur Terre, peut-être que ça nous offrira une meilleure vie dans d'autres mondes, Cécile Alduy.
Alors c'est particulièrement vrai pour François Fillon qui a un discours imbibé de culture catholique. Il cite les évangiles à tour de bras, et même son propre storytelling de candidat selon ses propres mots, va comme un pèlerin creuser son sillon chez les gens, quitte un chemin de croix, qui prêche dans le désert. Il y a toute cette ethos christique qu'il a essayé d'endosser. D'ailleurs, quand il a été nommé candidat aux primaires, tous les éditoriaux l'ont appelé le Messie, rédemption de Fillon, etc. Donc, il y a toute cette connotation religieuse. Ce qui est intéressant, c'est le paradoxe de ce vocabulaire religieux qui fait retour, alors qu'on est aussi dans une période en France où la laïcité est devenue une valeur commune, bradée et brandie par tout le monde. Donc il y a une sorte de... Soit on est dans un backlash conservateur avec la réaffirmation de valeurs religieuses qui seraient censées guider l'action politique, soit au contraire, on est dans cette religiosité qui affecte aussi la laïcité.
Ce paradoxe-là, est-ce qu'on l'observe dans d'autres périodes de l'histoire politique française, Bruno Fellini ?
Alors, une forme de religiosité ou de sacralité du discours politique, je pense, a toujours existé. Par exemple, vous recevez avant les élections des documents qu'on appelle des professions de foi. Vraiment, ça n'est pas neutre du tout. La profession de foi d'un candidat, même si c'est un athée déclaré, un laïcard et un bouffeur de curé, il va quand même rédiger une profession de foi. C'est la forme qui a changé. Moi, je suis frappé lorsque j'entends des discours récents par le ton de prêche. Parce que on a à peu près abandonné le discours agressif, martelé, offensif, et au contraire, c'est exactement ce que vous indiquiez, en essayant de satisfaire un petit peu tout le monde, en déplorant les abus, les dérives, etc. On prend très vite le ton d'une homélie ou le ton d'un prêche, et il y a un glissement, à mon avis, du politique vers le religieux, mais dans la forme, beaucoup plus que dans le fond. Au fond, nos discours, il est très rare aujourd'hui qu'un candidat se revendique très explicitement des Écritures ou de Dieu, en tout cas moins qu'au XIXe siècle. Ça nous paraît un peu choquant peut-être aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins affirmé qu'au XIXe siècle, où vous aviez des candidats qui vraiment expliquaient que si vous ne votiez pas pour eux, vous iriez en enfer. Ça, c'est quand même quelque chose qui est devenu tout à fait marginal. En revanche, la tonalité très ecclésiale des discours d'aujourd'hui est une nouveauté frappante.
Est-ce que vous partagez ce constat, Mariette Darigrand ? Pardonnez-moi, je vous redonne tout de suite la parole, Cécile Lui. Et est-ce qu'il ne faut pas aussi y voir l'expression d'une moindre importance peut-être donnée au programme et d'une plus grande importance donnée au récit, c'est-à-dire que finalement le prêche, c'est aussi une façon de se mettre en scène soi-même, et que ce qui compte, c'est l'histoire qu'on va raconter plutôt que les propositions ou les promesses qu'on va formuler.
Alors, il est évident que la société française est très travaillée par la question religieuse aujourd'hui. La question de l'héritage catholique est là. Il y a quand même d'autres religions en France qui ont bien du mal à se faire entendre. Je parle pas simplement de l'islam, d'ailleurs, qu'un journaliste, justement, de conseiller à François Fillon d'être un peu plus protestant dans ses pratiques, par exemple. Non, mais il y a d'autres... On fait en France comme si cette question était finie, la religion. Maintenant, on est laïque, il n'y a plus de religion. Non, bien sûr, l'héritage historique, l'inconscient collectif était travaillé. Alors, c'est toujours vrai à chaque élection, souvenons-nous de Ségolène quand même. Il y a une illusion chez les politiques, si vous voulez, qu'ils ont une parole performative, c'est-à-dire lève-toi et marche. Mais ça, justement, ça n'a marché qu'une fois, et il y a longtemps, et c'était pas politique, ou en tout cas pas classiquement politique. Mais ils ont tous, j'appelle ça c'est le narcissisme christique, si vous voulez, ils sont bons. Mais ça veut dire aussi que, je crois, il y a autre chose. Notre société, elle a basculé dans la prise de conscience du sens, qu'on appelle le sens, la conscience, etc. Regardez comment Benoît Hamon a émergé. Il n'a pas émergé en faisant du catéchisme, il a émergé Alors certes, avec le revenu minimum, qui est aussi d'ailleurs plus ou moins messianique, hein, chrétien.
Bah oui, c'est un peu la multiplication des petits pains.
Oui, hein, et puis, ça, non, puis les milieux cathos de gauche, etc., ont porté ça longtemps, mais aussi parce qu'il a parlé de ses enfants. Il a parlé de l'enfant. L'enfant, le divin enfant, c'est quand même central hein, dans le christianisme, dans le monde occidental. Et lui, il n'a pas dit, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de femme dans cette élection. Marine Le Pen est viriliste, elle s'est féminisée. Mais lui, il a parlé en tant que père-mère, si vous voulez. Mes filles, la santé de mes filles, les endocriniens, bon, les perturbateurs, voilà. Et c'est très fort ça aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas le mot simplement en tant que tel. C'est ce que vous disiez, c'est le contexte. Et l'interlocution. Et tout d'un coup, je crois qu'il a parlé, non pas comme un curé, mais quand même quelqu'un qui est marqué par la culture des générations, enfin de l'enfant comme valeur suprême.
Cécile Alduy.
Oui, et pour revenir à ce qu'on dit sur la place de la religion dans la politique, c'est là aussi que les campagnes électorales changent, si ce n'est le sens, du moins le choix des mots et peut-être leur connotation, c'est qu'on essaie de créer une communion avec les militants, les sympathisants, etc. Et là encore, je suis désolée de reciter Macron, mais quand il dit la politique c'est une mystique, il y a cette idée que ce qu'il cherche à créer dans un meeting, c'est moins une adhésion rationnelle sur des idées qui restent très générales et très abstraites, qu'un mouvement de communion et justement cette idée du mouvement, c'est-à-dire qu'on est ensemble, une sorte de messianisme et qu'il faut croire quand même c'est un vocabulaire très fort, il faut croire qu'on peut y arriver, une sorte de confiance et de foi qui s'exprime, mais c'est également valable dans un meeting de Marine Le Pen. Il y a une sorte de dans une campagne électorale, il faut des moments de communion et d'adhésion irrationnelle au candidat. Et c'est là que le sacré ou la transcendance intervient, malgré toutes les convictions, y compris athées, que les candidats peuvent avoir.
Alors il faut croire au candidat en ce qu'il transmet, peut-être, mais faut-il croire en ses promesses ? Les promesses électorales, c'est justement l'objet de votre livre, Bruno Fulini. Quel est leur statut aujourd'hui dans le discours politique ? Là aussi, on a l'impression que c'est peut-être quelque chose qui est moins présent, mais ce n'est peut-être qu'une impression.
Oui, c'est une impression. Disons que c'est compliqué. Depuis la célèbre phrase sur les promesses qui n'engagent que ceux qui les reçoivent, c'est devenu un de ces mots empoisonnés, comme réforme, enfin, les mots qu'il faut absolument éviter dans un discours politique. Alors, très souvent, vous avez des candidats qui expliquent qu'ils ne feront pas de promesses ou qu'ils n'ont pas de programme et qu'il faudra les juger sur leurs actes. Et ce qui en soi est déjà une promesse, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'assez retors. Les promesses, on les fustige aujourd'hui, mais si on les étudie dans la durée, c'est passionnant. Parce qu'il est rare qu'une promesse soit réalisée par le candidat élu dans les mois ou les années qui suivent. En revanche, on observe un phénomène extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où une idée est formulée, fût-ce par un candidat totalement marginal ou considéré comme toqué par ses contemporains, elle tend à se réaliser. Ça peut prendre des décennies. Et c'est pour ça que, dans mon livre, j'ai mélangé les candidats, entre guillemets, sérieux et les petits candidats, les candidats farceurs et les candidats qui ont été élus et appelés véritablement aux responsabilités, parce qu'en fait, il y a un continuum. Et vous voyez, en 1848, ceux qui proposaient que les femmes soient électrices, voire éligibles, c'était des comiques. On les considérait comme fous, véritablement fous. Et évidemment, aujourd'hui, personne ne proposerait de revenir là-dessus. Et je pourrais multiplier ce type d'exemples.
Mais est-ce que ça veut dire, Bruno Fulini, que pour être élu, il ne faut pas forcément faire des promesses trop précises, mais pour que ces idées soient réalisées, là, on a intérêt à les formuler de telle manière, mais ce n'est pas vous qui allez être porté au pouvoir pour les appliquer.
En effet, moi je suis venu à l'histoire politique à travers l'histoire des idées. Et ce qui est frappant, c'est que les gens qui formulent des idées en politique, sont généralement des candidats soit marginaux, soit très chargés idéologiquement et qui n'ont aucune chance d'être élus. Ils sont là, d'ailleurs, pour assurer une forme de publicité à leurs idées. Peu imaginent qu'ils seront vraiment élus. Il y a une utilisation du forum et de la parole publique pour propager des idées. En revanche, ceux qui sont élus sont ceux qui agitent des idées très générales ou des idées très majoritaires ou qui défendent en réalité des réformes déjà réalisées ou partiellement réalisées.
Alors en termes d'idées très générales, je voudrais juste évoquer alors la conclusion de la profession de foi de Jean Le Canuet, et qui était candidat à la présidence de la République en 1965. Il y a une phrase qui m'a fait hurler de rire. Alors, il dit, ma candidature est un oui enthousiaste et réfléchi à l'avenir. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans votre livre, hein, Bruno Fulini. Un oui à la stabilité dans la liberté pour le mouvement. Alors la stabilité dans la liberté pour le mouvement,
j'aime beaucoup.
Je trouve ça assez génial. C'est-à-dire, finalement, est-ce que les mots Mariette Darrigrand, alors là c'est pas forcément le mouvement, mais je pense à la laïcité qu'on évoquait, le peuple dont on entend beaucoup parler, les élites, n'en parlons pas, la révolution qui devient là aussi que les candidats de droite, de gauche, du centre s'approprient assez largement. Est-ce que ça veut dire que ces mots-là, finalement, à force d'être utilisés à droite, à gauche et au centre, finissent par perdre un peu de leur sens, ou bien que certains arrivent à imposer le sens, un sens particulier qu'ils vont donner, qui gagne un peu la fameuse bataille culturelle pour citer Gramsci, parce que si on fait une émission politique sans citer Gramsci aujourd'hui, c'est pas une bonne émission politique. Mariette Darrigrand.
Mais disons que c'est ça l'idéologie, c'est-à-dire ce sont des mots qui deviennent, qui se cristallisent, qui sont fermés, si vous voulez, c'est comme des armes, des outils, des armes, et en effet, à ce moment-là, ils peuvent être des instruments de prise de pouvoir. Le mot peuple aujourd'hui, de toute façon, tout le monde l'emploie, mais il a un sens idéologique très fort. C'est d'autant plus intéressant.
Et à quel sens idéologique pour vous ? C'est-à-dire, qui aurait gagné la bataille du sens du mot peuple ?
Alors, je ne sais pas pour le moment, mais ce qui est sûr, c'est que le mot peuple est dévoyé de son sens initial. Il vient de la société antique, et dans la société antique, vous aviez trois couches. En haut, l'aristocratie. En bas, la plèbe, et au milieu, disons, alors, le peuple, mais le peuple n'était pas la plèbe, justement. Hein. Or, aujourd'hui, on a eu ce glissement, c'est-à-dire que il faut dire que les classes moyennes ont été les grands parents pauvres de la politique depuis 30 ans, et donc tout le monde a le sentiment, ces classes moyennes ont le sentiment d'être... Les sociologues les appellent les couches populaires, c'est quand même pas très joli, et donc le mot « peuple » arrive... comme à la fois, si vous voulez, une peur. Tiens, je vais redescendre au niveau... alors qu'il y a plus en dessous que le peuple, il y a la plèbe. Et en plus, le mot « peuple » aujourd'hui a été porté comme la grande valeur par le Front National d'abord. Mais ça, l'eupénisation des esprits, tout le monde a fait cette démagogie-là. C'est-à-dire que le peuple est devenu l'objet suprême, sacré, au nom duquel... Marine Le Pen nous dit, au nom du peuple. Donc le peuple, si vous voulez, devient le bon objet absolu. Et le populisme, à ce moment-là, alors que le populisme signifie la prise, l'instrumentalisation du peuple par un homme pour exercer son pouvoir autoritariste, eh ben, est devenu un mot positif, chez Mélenchon comme chez Marine Le Pen.
Cécile Alduy, 2 500 000 mots étudiés pour votre livre. Combien de fois le mot peuple ? Question piège.
Alors, en fait, est-ce qu'il apparaît souvent en tout cas ? Ben, chez deux candidats, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, c'est le septième mot qu'elle cite le plus, et Jean-Luc Mélenchon, le neuvième substantif qu'il cite le plus. Les autres, pas du tout. Il n'y a que Sarkozy qui employait aussi peuple pour... Et dans un seul contexte, Sarkozy, c'était pour dire les élites n'ont pas compris la question de l'identité nationale. Mais c'était le seul contexte. Sarkozy n'allait pas remettre en cause l'austérité, l'adhésion à l'Union européenne, etc. Donc, il y a deux personnes qui utilisent le mot peuple et avec pas tout à fait le même sens. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que maintenant, on a l'impression que c'est Marine Le Pen et le Front National qui a porté le mot peuple comme une valeur positive. Mais... il y a encore 40 ans, c'était la gauche qui avait une mystique du peuple. Et peut-être que l'historien que vous êtes pourra confirmer ça encore au 19e siècle, c'est encore plus prégnant. Et il y a plusieurs sens, effectivement, dans ce mot totalement polysémique et ambigu quand on l'emploie en politique, parce qu'il y a ce mot, le peuple démos dont vous parlez, qui est le peuple qui va avoir la souveraineté et la légitimité politique. Mais il y a aussi le peuple ethnos, qui est la population ethnique, la tribu. Et Marine Le Pen, c'est aussi dans ce sens qu'elle emploie le mot peuple. C'est pas n'importe quel peuple, c'est le peuple français, sous-entendu français né en France de parents français. Alors que Jean-Luc Mélenchon emploie deux autres sens, qui est à la fois le peuple souverain, et il utilise énormément ce vocabulaire de la souveraineté populaire, et aussi le peuple au sens de plèbe, pour le coup, des classes populaires, et là dans une tradition de gauche. Et donc c'est ça un petit peu l'enjeu de cette bataille idéologique, c'est de quel peuple dont on parle. Et même pour Jean-Luc Mélenchon, il y a des ambiguïtés. De temps en temps, ça va être la souveraineté populaire dont il parle. Et d'autres moments, on va se demander, est-ce que c'est pas un peuple aussi un peu ethnique dont il parle lorsqu'il est pour une sorte de patriotisme économique?
Je vais dire un petit truc. Mais c'est intéressant que le mot peuple soit monté quand la gauche a perdu son prolétaire et quand la droite n'a pas assumé de parler au nom des classes supérieures, traditionnelles ou du catholicisme. Il fallait pas non plus en parler. Donc c'est parce qu'il y a le problème de l'autre pour qui on se bat, que le peuple arrive comme un mot valise, enfin un mot pas valise, mais fourre-tout.
Bruno Félinier.
Oui, j'allais dire à peu près la même chose. Vous avez remarqué qu'il y a un mot qui... Alors vous allez peut-être avoir une statistique précise qui m'intéresse beaucoup. le mot prolétariat est très peu employé. Et même les candidats trotskistes, les candidats d'extrême gauche vont parler des travailleurs. Oui. Mais le prolétariat, là, c'est vraiment un mot que je trouve énormément au 19e siècle, au début du 20e siècle, également dans les années 50-60, qui est vraiment passé à la trappe. Et le succès du mot peuple, c'est qu'il me permet, si j'écris un discours, de dire aussi bien le prolétariat que de dire la nation, au sens effectivement même biologique, si vous voulez. Donc, c'est un mot qui est très utile d'un point de vue instrumental, parce qu'il peut fait partie de ces mots qui peuvent satisfaire beaucoup de monde qui n'y voit pas du tout la même chose.
Les mots, Cécile Alduy, qui sont prononcés par les politiques, ils sont utiles pourquoi ? Est-ce qu'ils sont utiles pour parler la même langue que ceux à qui ils s'adressent, ou bien est-ce qu'ils sont utilisés pour aller chercher d'autres électeurs qui ne sont pas encore dans votre camp et qu'on va essayer de séduire en faisant de la, ce qu'on appelle de la triangulation, c'est-à-dire en allant sur le terrain idéologique et sémantique de ses adversaires ?
Alors, il y a ces deux stratégies qui sont possibles. Et récemment, ce que j'ai constaté, c'est que la stratégie de la triangulation a été en faveur avec des effets plutôt négatifs. C'est que quand j'ai regardé ma corpus, quelqu'un qui a beaucoup triangulé en employant les mots normalement plutôt favorisés par la gauche, c'était Alain Juppé dans les primaires. On voit le succès que ça a eu. Et inversement, Manuel Valls, qui a parler de défiscalisation des heures supplémentaires, qui est une mesure emblématique de la droite.
L'autorité,
la discipline, le mérite, qui sont des mots-clés de la droite qui apparaissent dans tous les sondages d'opinion sur les affiliations partisanes, a eu également le succès que l'on sait. Inversement, ceux qui parlent à leur électorat ont réussi à convaincre. François Fillon a un discours classique de droite, avec un vocabulaire de morale chrétienne totalement classique. La famille, la patrie, l'agriculture, c'était ça les grands mots qui apparaissent, et le travail, et il a gagné. Il y a aussi d'autres phénomènes qu'on peut observer, c'est que avant d'essayer de piquer des électeurs à un autre camp, il faudrait déjà mobiliser son propre camp. Et actuellement, la grande difficulté, c'est pour les partis, entre guillemets, de gouvernement, de mobiliser les déçus de leur propre camp. C'est particulièrement vrai à gauche avec les déçus de François Hollande, mais c'est aussi vrai aujourd'hui avec les déçus de François Fillon.
Est-ce que les mots qui sont utilisés en disent d'abord davantage sur la personne qui les formule ou bien sur ceux qui les reçoivent ? Avant de vous laisser répondre à cette question, je voudrais vous faire écouter un extrait d'une émission de radio qui remonte à il y a déjà quelques décennies. Nous sommes en 1947, c'est donc il y a 70 ans. Le 12 mars 1947, émission La Tribune de Paris, présentée par Paul Guimard, émission consacrée à l'analyse des discours politiques, et invité de cette émission, un certain Raymond Aron, à propos du général de Gaulle.
Jusqu'à présent, nous avons entendu parler d'orateurs parlementaires qui parlaient aux quelques centaines de collègues ou à la rigueur dans une réunion publique, c'est-à-dire dans les cas extrêmes, quelques milliers de personnes. Avec de Gaulle, nous entrons dans un âge nouveau, celui où l'orateur est invisible et s'adresse à des millions de ses semblables. Et je crois que le plus grand événement d'art oratoire radiophonique de notre époque, ce sont les discours du général de Gaulle. Il me semble qu'on pourrait même tirer de ce côté nouveau des discours, du fait que ce sont des discours radiophoniques, une conséquence pour notre problème au sens étroit. Au bout du compte, un discours de Jaurès ou de Clémenceau est révélateur de la psychologie de l'orateur d'abord, et c'est un fait historique, et en deuxième lieu aussi révélateur des sentiments que cet orateur prêtait à ceux qui l'écoutaient. Lorsqu'il s'agit du milieu parlementaire, on peut dire qu'un discours de Clémenceau forme ou révèle la psychologie du Parlement. Lorsque c'est un discours à des millions de Français, le discours est révélateur moins de la psychologie de Gaulle tout seul que de la psychologie progressive de millions de Français. Et c'est en ce sens que je crois que les discours à la radio deviennent non seulement des actes historiques, peut-être plus importants que les discours en petit comité, mais deviennent aussi plus révélateurs d'un public plus vaste, et en ce sens, ont peut-être une valeur de document historique plus profond.
Voilà, Raymond Aron, en 1947, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette passionnante émission sur le site des Nuits de France Culture, qui en proposait justement la rediffusion il n'y a pas très longtemps. On a mis le lien sur la page de l'émission. Qu'est-ce que vous pensez, Marie Darrigrand, Bruno Fellini, Cécile Alduy, de cette analyse de Raymond Aron ? Est-ce qu'elle tient la route pour vous 70 ans plus tard ? Enfin, quand j'entends tient la route, c'est-à-dire est-ce qu'elle permet encore aussi de donner une grille d'analyse au discours politique contemporain, Bruno Fellini ? Denis ?
Alors, bien sûr, le concept même de discours radiophonique est daté historiquement, mais ce que je retiens surtout, c'est la réflexion sur les relations entre, c'est très classique, hein, mais le médium et le message. Et il est certain que la technique, d'une part, et le public auquel s'adresse l'orateur vont complètement modeler la structure du discours et peut-être même, en partie, son fond même. Jaurès ou Clémenceau s'exprimaient d'une certaine manière dans l'hémicycle, parce qu'ils étaient dans une sorte de club avec des égaux. Mais les mêmes orateurs, lorsqu'ils étaient devant un public populaire dans une salle de réunion, s'exprimaient autrement, avec le même vocabulaire. Mais le phrasé était différent, les techniques oratoires étaient différentes. Et puis il y avait des contradicteurs, et puis il y avait même une bagarre à la fin. Donc c'était complètement différent. Et de la même façon, là il est question de De Gaulle à la radio, mais pour nous De Gaulle c'est un homme de télévision. Le génie politique de De Gaulle, ça a été qu'il a été un des premiers, alors qu'il avait d'énormes réticences au début, pensons à la campagne de 65, mais finalement il s'y est mis et il a crevé l'écran bien avant les autres. Là aujourd'hui on voit les candidats qui, avec les chaînes YouTube, avec les hologrammes, etc., cherchent encore d'autres formes, mais ça n'est pas du tout neutre sur la forme du discours et sans doute même son fond.
Maëlle Darigrand.
Oui, en vous écoutant, je suis d'accord. Et en même temps, je pense que la voix reste quelque chose d'extrêmement fort aujourd'hui. Quand on voit nos candidats, Mélenchon a une voix très particulière. Marine Le Pen a travaillé sa voix pour la rendre plus douce. Macron, c'est le contraire. Il faut qu'il ait une voix plus grave, plus voilà. Donc, je crois quand même que notre société, certes, c'est une société d'image, mais c'est une société très sonore et que il y a quand même quelque chose qui se fait uniquement par regarder Benoît Hamon, comment il a éteint sa voix pour être Monsieur Tout le Monde et être justement anti paillettes. Donc, je crois que notre société, elle travaille aussi beaucoup l'oralité et nous sommes influencés par les voix.
Et sur ce que dit Raymond Aron, comme quoi les discours renseignent autant finalement sur l'état d'esprit de ceux qui les reçoivent que sur ce qu'est ou celui qui les prononce.
Je crois que on en parlait tout à l'heure, le avant l'émission, tout ce qui nous passionne à observer les discours politiques. C'est ce qu'ils disent de la France, c'est ce qu'ils disent des Français, c'est ce qu'ils disent de nous. Il faut être deux, hein, comme pour beaucoup d'autres choses, il faut être deux pour cela.
Alors justement, Cécile Alduy, vous, je le rappelais en début d'émission, vous êtes enseignante à Stanford, ça veut dire que vous passez une partie de votre année aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez comprendre quelles sont les évolutions de la France et quel est en gros le climat du pays en regardant uniquement de loin les discours des politiques ?
Oui, et je pense que c'est encore plus facile parce que de loin, ça lisse tout le brouillage des éphémérides, etc. Et moi, ça fait 13 ans que je suis et j'ai quand même observé de loin cette émergence de la question de la laïcité comme sorte de totem et de l'islam qui était encore il y a 13 ans totalement sous les radars. Et donc plus on est loin, plus on voit ce qui émerge comme symptôme de la société française. Et un mot comme burkini par exemple, j'ai fait des petites recherches. En 2012, je crois qu'il y avait peut-être 45 concurrents sur Internet. En août 2016, c'était le deuxième hashtag mondial. Donc ça c'est un mot symptôme. Il disait pas grand-chose sur le nombre de burkini en France, mais beaucoup sur l'état de la société française.
Alors le burkini en 1955, c'était un terme qu'on utilisait assez peu, mais je voudrais terminer cette émission en vous faisant encore une lecture peut-être un tout petit peu plus longue, mais d'un extrait de votre livre, Bruno Fulini. Un candidat qui s'appelle Lucien Calas, dit Lulu, qui est charcutier salaisonnier à Lacône. On est donc en août 1955, il est candidat à l'élection générale pour le canton de Lacône, ça se trouve dans le département du Tarn, et il explique toutes les bonnes raisons pour lesquelles il faut voter pour lui. Alors il dit, étant un charcutier salaisonnier, j'achète les porcs aux agriculteurs, donc leur intérêt est lié au mien et c'est pourquoi je défendrai les agriculteurs. Je transforme et travaille la viande de ces porcs, je suis donc artisan et comprends leurs difficultés. Je suis employeur, je partage la peine de mes ouvriers, je me mets à leur place et comprends leurs difficultés à payer l'apéritif quotidien, je ne les oublierai pas. Il n'oubliera pas donc le monde ouvrier. Et puis par ailleurs, il est aussi consommateur de lait. Enfin, il l'était dans son enfance et aujourd'hui, il boit du vin dans son âge mûr. Je soutiendrai également éleveurs et vignerons. Une telle profession de foi aujourd'hui, c'est totalement inimaginable a priori, mais ça serait quand même assez revigorant, non ?
Disons que bon, on est dans le contexte aussi du poujadisme. Il s'agit d'une élection locale, d'une élection cantonale. N'oublions pas que la démocratie repose quand même sur un principe de base qui est, comme on l'apprend à Sciences Po, faux l'identité des gouvernants et des gouvernés. Et il y a évidemment ce rêve du président qui serait semblable à l'électeur. Hein, François Moyen, en 1931, qui fait la une du magazine du Rire, le Monsieur Tout-le-Monde, Antoine Pinet, qui s'était fait une tête d'électeur. Là, c'est vrai, Lucien Calas, c'est Monsieur Tout-le-Monde, c'est le charcutier salaisonnier bien connu dans son village, qui se présente aux élections, et son modèle de société, en fait, c'est sa boucherie-charcuterie, mais en grand.
Est-ce que Monsieur Madame Tout-le-Monde sera le prochain président-présidente de la République? Nous le saurons d'ici quelques semaines. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Cécile Alduy, Ce qu'ils disent vraiment, les politiques prises au mot, c'est aux éditions du Seuil. Je te kiffe, je t'aime. Chez Gallimard, dans la collection Folio, c'est votre dernier livre, Mariette Darrigrand, et Histoire amusée des promesses électorales de 1848 à nos jours, aux éditions Talandier, Bruno Fuligny. Merci à tous les trois, merci à toute l'équipe du Grand. On se retrouve demain pour le Club des idées du vendredi. Y a-t-il un usage opportuniste de l'histoire dans cette campagne? Ce sera la question que nous soumettrons aux membres de notre club. Dans un instant, ping-pong avec Mathilde Serrel et Martin Kénéen. Et tout de suite, c'est le rappel des titres.